Le journal en français. Living Bringa.
Bonsoir. Deux morts et une cinquantaine de cases brûlées. Bilan d'une attaque survenue samedi au village Aboro, à 80 km de Bounia. Auteur de ces violences, les Lendou, affirme le président de la communauté victime Lendo. Encore des chiffres, 12 morts et des dégâts matériels importants. Bilan provisoire des plus de deux derniers jours à Kinshasa. Dans ce journal également, le cri d'alarme du bourgmestre de la commune de Massina qui parle d'un sinistre dans sa juridiction. Et puis la ville côtière de Mwanda face à une hausse exagérée des produits de première nécessité, conséquence de l'impraticabilité du tronçon routier Boma-Mwanda dans le Bas-Congo. Nous le disions à l'instant, attaque dans la nuit du samedi à dimanche du village Aboro à proximité de Kwadroma, à 80 km au nord de Bounia. Les auteurs de ces violences sont des Lendou, confirme le président de la communauté Ndo, César Tchouma. Il parle même de deux morts et de 58 cases brûlées. Le commissaire de district de l'Ituri ad intérim, pour sa part, affirme que l'armée nationale et la MONUC s'efforcent à rétablir l'ordre. Objectif, remettre le climat de confiance entre les deux communautés. Dieudonné Rwaboma est au micro de Isaac Remoyope.
J'ai appelé l'administration du territoire. Nous avons loué les efforts qui sont en train d'être faits. D'abord, il y a l'armée nationale et la MONUC qui sont là pour pouvoir apaiser les tensions là-bas. Moi, je pense que ça évolue déjà assez bien. Et nous envisageons aller vers là, dans un proche avenir, avec l'administration du territoire. Dans l'entretemps, nous invitons les gens à continuer à vivre dans l'attente, parce que en Ituri, nous ne voulons plus revenir à ce que nous avons vécu. Et très prochainement, nous allons nous rendre là-bas. L'administration du territoire est instruite de moment où tu vas se rendre là-bas pour pouvoir palper de doigts cette situation-là, essayer de résoudre.
Pour sa part, le président de la communauté Ndo a affirmé que cette attaque survient au moment précis où le calendrier des rencontres communautaires allait entrer en application. Et puis à Bukavu, des tirs ont à nouveau été entendus la nuit dernière à Mungu, en commune d'Ibanda. Selon le bourgmestre de cette commune, Jonas Mutiki, deux hommes armés en uniforme ont tenté de dévaliser la maison d'un citoyen du quartier. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de victimes. Notez en même temps qu'une importante délégation en provenance de Kinshasa est arrivée à Bukavu. Elle est composée du conseil du président de la République, Marcelin Tshishambo, ainsi que des responsables de l'ANER. Le point avec Didas Namujimbo.
Le week-end a de nouveau été mouvementé dans différents quartiers de Bukavu. Dimanche soir, des hommes armés et en uniforme ont tenté de cambrioler une habitation du quartier Mungu. Rappelons que deux personnes ont été tuées la semaine dernière dans ce même quartier et dans les mêmes circonstances. C'est dans ces contextes que sont arrivés ce week-end l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement et le conseiller principal du chef de l'État chargé du collège politique, Marcelin Tshishambo. Ils sont venus avec une centaine d'éléments de la police d'intervention rapide qui va prêter main forte aux militaires durant les patrouilles nocturnes. On écoute Marcelin Tshishambo.
Nous sommes venus d'abord avec un contingent de 120 personnes de la police d'intervention rapide, la PIR, et 80 autres débarqueront probablement. Nous avons voulu amener des éléments de la police nouvellement formés. 100 viennent d'une formation d'Angolais et 100 autres viennent d'une formation par les Français. Les équipes à Bukavu n'ont pas encore le matériel adéquat pour gérer ce genre de situation. Mais avec le temps, j'espère qu'on arrivera à étendre les moyens au niveau de tout le monde. Mais un recyclage des individus est important.
En effet, depuis le week-end dernier, des patrouilles mixtes FARDC, police, ANR, DGM et MONUC ont commencé à sillonner les différents quartiers de Bukavu. À voir si tous ces dispositifs vont suffire à rétablir la sécurité dans la ville. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
L'autre grande actualité, ce sont les pluies de deux derniers jours qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Au moins 12 morts et des dégâts matériels considérables enregistrés. S'agissant des morts, sachez que 7 ont été enregistrés dans la commune de Kisenso, 2 dans la commune de Ngaliema, 1 à Limete, 1 à Kitambo et 1 autre dans la commune de Kalamu. Ces cas des morts ont été confirmés à Radio Okapi par les responsables de ces municipalités. Des détails avec Innocent Olenga.
Toutes ces personnes mortes ne sont pas décédées dans les mêmes circonstances. Les 7 victimes de Kinshasa, dont 5 enfants et 2 adultes, ont succombé des suites des éboulements. La victime de Limete, une femme, un mur s'est écroulé sur elle. L'homme qui est mort à Kalamu l'a été par noyade, tandis que les victimes de Kitambo et Ngaliema ont trouvé la mort par électrocution. Ce bilan est encore provisoire. Au-delà de celui-ci, des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Dans la commune de Kinshasa, les élèves finalistes qui devaient passer leur épreuve de dissertation au complexe scolaire d'Ima ont été délocalisés vers le lycée Kabambaré, le complexe scolaire d'Ima étant endommagé par les eaux de pluie. Les quatre rivières qui traversent la commune de Massina ont débordé complètement, causant des inondations dans plusieurs quartiers. Des inondations, on en a remarqué aussi dans la commune de Kimbaseke, Lingwala et Selembao, où elles ont laissé les gens dans la détresse.
En rapport toujours avec ce drame, le bourgmestre de la commune de Massina parle de véritables sinistres dans sa juridiction. En plus, Toussaint Kapoukou Mafoulou craint une recrudescence des épidémies dans les prochains jours. Toussaint Kapoukou est joint au téléphone par Innocent Olenga.
La commune de Massina vit un sinistre dans les quartiers Kimbangu, quartier Boba et quartier surtout Zouzouambombo. Bon nombre des administrés de ces quartiers sont en tout cas dans un état de noyade pour ce qui concerne leurs résidences. Ici, on a enregistré plus de dégâts d'ordre matériel. Mais sinon, il faut dire que vraiment, la population est en état de détresse puisqu'ils ont trouvé comme refuge les toits de leur maison. Bon nombre se trouvent être perchés sur le toit de maison. La situation est catastrophique. Donc, il faut attendre encore 2 ou 3 jours pour que l'eau puisse au moins couler vers le pool Malebo, donc vers le fleuve Congo. Il y a des problèmes de toilettes qui sont aussi noyés dans les eaux. Nous on a à craindre qu'il y ait des épidémies qui pourront peut-être surgir par la suite. Donc, il faut absolument désinfecter ces endroits aussitôt que l'eau pourra sécher.
Hausse des prix de produits de première nécessité à Mwanda, dans la province du Bas-Congo. Cette situation est observée depuis une semaine. Un sac de farine de manioc, par exemple, est passé de 9 000 à 18 000 francs congolais, soit le double du prix normal. À la base de cette flambée des prix, l'impraticabilité du tronçon routier Boma-Mwanda. Cette voie est dans un état de délabrement très avancé. Correspondance, Dani Kindanzita.
Le cas le plus frappant concerne le manioc, une denrée très utilisée dans cette contrée. Depuis une semaine, le sac de cossette de manioc est passé de 9 000 à 18 000 francs congolais, soit une hausse de 100%. Cela ne s'explique pas au niveau du consommateur, d'autant plus que le taux d'échange est resté stationnaire à Mwanda. Les commerçants, eux, expliquent ce phénomène de hausse des prix sur le marché de Mwanda du fait de l'impraticabilité du tronçon Boma-Mwanda. Selon eux, pour atteindre cette cité côtière par route, il faut plus ou moins 4 jours. D'autre part, la vedette de l'Onatra n'a que 2 rotations par semaine, pendant qu'il est difficile de voyager par baleinière avec une quantité suffisante de marchandises. Joint par téléphone, l'administrateur de la cité de Mwanda a affirmé que cette situation est connue de toutes les autorités. Toutefois, M. Kowaselo Selo rassure la population de la cité côtière que le moyen sera mis en œuvre dans les prochains jours pour la réhabilitation de cette route. Car la semaine dernière, une équipe mixte, Office des routes Malta Forest, l'avait visité pour une étude de faisabilité et la population continue de payer le frais. De Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Nord Kivu à présent, polémique autour de la route Walikale-Kisangani qui sert d'aéroport. La population de Kilambo s'insurge contre les percepteurs des taxes publiques sur cette voie. Cette population déclare entretenir cette piste et tient à trouver son compte dans le partage de ces taxes. Reportage de Moïse Mutunga qui revient de Kilambo.
La piste de Kilambo sur laquelle atterrit cet avion est à 20 km de Walikale Centre. Cette route est transformée en aéroport, est opérationnelle depuis 4 ans et accueille plus de 10 atterrissages par jour. Pour dégager la piste, la population de Kilambo machette à main, débroussait souvent les alentours de cette route aéroport. Par contre, les taxes perçues vont au service de l'État, telles que la DGM, les transports et communications, mais aussi aux militaires. Cette situation n'arrange pas les villageois de Kilambo.
Nous, la population, nous observons seulement, mais on ne nous aide pas comme ceux qui peuvent bénéficier de l'atterrissage sur cette piste. Nous voyons le transport de minerais et de farine par les avions qui atterrissent ici au village de Kilambo. À ce qui concerne l'aide aux populations locales, il n'y a rien. La population débroussaille les alentours de la piste, mais ceux qui gagnent de l'argent, ce sont le chef.
Du côté des officiels, la régie des voies aériennes ignore cette piste, de même que la division provinciale de Transcom. Selon le chef de cette division Nord Kivu, cette piste ne répond pas aux normes internationales de l'aviation civile. Pour lui, la population de Kilambo doit plutôt réclamer ses droits au auprès des exploitants. Du côté de la 8e région militaire, chef d'état-major dit pour sa part avoir déjà interdit aux militaires la perception des taxes. Sachez que la route aéroport de Kilambo est la seule piste d'atterrissage à Walikale. Pour les commerçants, cette piste de fortune permet tout de même de désenclaver les territoires de Walikale. De Goma, Moïse Mutunga Lukube, Radio Okapi.
Dossier Société nationale d'électricité, le gouvernement de la RDC doit mettre fin aux tarifs préférentiels qu'il accorde injustement à 16 grandes entreprises œuvrant sur son sol. Propos du président national de la délégation syndicale de la SNEL, Pala Tawingi, l'a déclaré au cours de l'arrêt de travail observé par les agents de cette entreprise publique le vendredi dernier ici à Kinshasa. Guy Roger Nyampala.
D'après Pala Tawingi, pour les seules provinces de Kinshasa, du Bas-Congo et du Katanga, ces entreprises ont bénéficié d'un rabais de plus de 15 millions de dollars américains pendant la période 2001-2006. Monsieur Wingi cite notamment certaines entreprises du secteur brassicole, hôtelier et agroalimentaire. Pour lui, avant de bénéficier d'un quelconque tarif préférentiel, toute entreprise doit respecter des critères bien définis, notamment celui de la banqueroute, vérifié par une commission mandatée par le Conseil de gestion.
Le président de la délégation syndicale de la SNEL, Pala Tawingi, vous allez l'entendre, dénonce ainsi, nous citons, la criminalité organisée par sa hiérarchie ainsi que par le ministère de l'économie. Pala Tawingi s'exprime au micro de Guy Roger Nyampala.
Il y a une complicité interne et une complicité externe, c'est-à-dire SNEL plus le ministère de l'économie. Et cela, aujourd'hui, c'est la troisième année que cela perdure. Allez-y, calculez les conséquences. Vous avez entendu parler des 32 millions qui se sont volatilisés, ils devraient servir à l'achat des câbles, des transfos et de l'exploitation, c'est-à-dire la maintenance des machines Dinga. Aujourd'hui, nous avons que 6 machines sur 19 machines installées dans la production ouest, c'est-à-dire 5 machines à Zongo. Aujourd'hui, nous en avons qu'une seule qui est en service. Nous avions 14 machines. Aujourd'hui, nous en avons que 5 qui sont en service et travaillent dans des sites. Des fois, vous êtes en train de constater que nous sommes souvent victimes de blackouts. C'est-à-dire, vous verrez toute la ville dans le noir et des poches noires partout. Ces poches noires, la cause, c'est les tarifs préférentiels qu'on est en train de nous imposer.
Autre nouvelle, une formation sur la vulgarisation de documents se rapportant aux élections a commencé aujourd'hui à Kinshasa. Elle regroupe une centaine d'ONG congolaises et se termine vendredi prochain. Il s'agit pour les participants d'apprendre comment faire connaître la population des documents comme la Constitution et la loi électorale. Pour l'ONG Veille RDC, un des organisateurs, cette formation des formateurs profitera même aux partis politiques. Patrick Djanga est interrogé par Donna Madimba.
D'abord, ils vont se servir des textes légaux qui ont été élaborés et adoptés par les législateurs et la CEI. Là, je cite la Constitution de la Troisième République, je cite la loi électorale, je cite les mesures d'application de la loi électorale. Mais en plus de ça, les participants vont élaborer ce que nous appelons la trousse électorale, ce qui est une première dans notre pays. Nous sommes inspirés de l'expérience canadienne, là où nous allons dégager un certain nombre de priorités à soumettre aux candidats. Puisque l'expérience dans notre pays, quand un candidat arrive, il nous parle de sa vie, de ses études, de ses longs diplômes, mais loin de toucher aux préoccupations de la population. Il est question d'identifier les besoins réels de la population et de savoir ce qu'en pense chaque candidat à différents niveaux par rapport à ses préoccupations.
En dehors de nos frontières, ouverture ce matin à Brazzaville de la première conférence de l'Union africaine des ministres en charge du transport ferroviaire. Les travaux des experts qui précèdent la réunion des ministres vont ficeler les dossiers de ces assises consacrées au développement du chemin de fer en Afrique. Arsène Séverin.
Pendant deux jours, les experts du chemin de fer africain feront le point de la situation du réseau ferroviaire en Afrique. L'objectif est de produire une photographie commune pour tous les pays, ça à chacun, de revoir sa politique sur le chemin de fer. La Banque mondiale a fustigé la mauvaise qualité des voies ferrées africaines. Pour Midou Ibrahim, représentant de la Banque mondiale, c'est le résultat des mauvaises politiques des gouvernements africains qui entretiennent un véritable gap entre les déclarations officielles et les engagements effectifs des États sur le terrain. En novembre 1988, les pays africains décidaient à Brazzaville de mettre en place des stratégies permettant de transformer les administrations ferroviaires en de véritables entreprises commerciales. Près de 20 ans après, les experts se retrouvent encore à Brazzaville faire le point d'une situation quasi catastrophique aujourd'hui. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi. Okapi.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h heure de Kinshasa.